Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-glace. Avant de vous laisser plonger dans votre nouvel épisode, je voulais vous parler de « Y a qu'à m'expliquer », une toute nouvelle série audio du temps dédiée aux intelligences artificielles. Deux fois par mois, dans « Y a qu'à m'expliquer », Grégoire Barbet tentera de démystifier les enjeux posés par ces IA et reviendra sur les principales actualités qui les concernent. Côté podcast, vous pourrez aussi découvrir « Sous la coupole », notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. J'en profite enfin pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement au journal Le Temps, web et print, sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Étant dans le monde scientifique, qui est majoritairement masculin, j'ai remarqué que souvent, je devais même réprimer ma féminité dans ce milieu scientifique parce que j'étais plus prise au sérieux si j'arrivais avec un pantalon, une chemise, queue de cheval et pas de maquillage que si j'arrivais avec des talons, une robe et du maquillage. Tout de suite, le comportement des clients scientifiques changeait. Et donc, par rapport aux clients, je ne voulais surtout pas que ça sache. Donc, ce n'est pas quelque chose que je mets dans mon CV aussi. Et même avec mes collègues, je n'en parlais pas, en tout cas, tant qu'on ne devenait pas proches et amis.
Bienvenue dans la saison 6 de Brise-glace, un podcast du temps qui s'intéresse toujours à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Née dans une famille indienne installée à Genève, Sarah a vécu, enfant, le gap culturel entre ce qui était attendu d'elle à la maison et sa volonté de vivre sa propre vie, de jeune romande. Une tension qui progressivement s'est muée en dichotomie, puis en envie d'explorer la mise en scène de soi. Aujourd'hui, Sarah a une passion qu'elle tient à bonne distance de sa vie professionnelle et familiale, l'effeuillage burlesque. Au micro de Brise-glace, elle raconte la libération que la discipline a représentée pour elle et les frontières bien hermétiques qu'elle maintient entre ces deux aspects de sa personnalité.
Bonjour, je m'appelle Sarah, j'ai 32 ans. J'ai fait des études scientifiques en biologie et je suis dans le milieu de la biotech avec un rôle plutôt commercial où je dois vendre des produits à des scientifiques. Et je suis d'origine indienne, mais j'ai grandi à Genève et depuis 6 ans, j'habite à Lausanne.
Vous êtes née en Inde ?
Non, en Suisse. En fait, ma mère venait d'une famille d'origine ougandaise. Parce qu'il y a beaucoup d'Indiens au Ouganda. Et il y avait un moment, un mouvement nationaliste, où justement le président de l'époque, Idi Amin, il voulait enlever tous les étrangers du pays. Il devait juste monter dans des avions et aller là où les gens accueillaient. Donc c'était la Suisse, elle ne connaissait pas, mais elle a découvert à l'atterrissage au mois de novembre, avec la neige. Et donc ma mère, elle arrivait à l'âge de 16 ans, mais mon père, il est venu plus tard au moment de leur mariage.
Vous savez comment elle a rencontré votre père ?
C'était un mariage arrangé, c'est souvent comme ça dans la culture indienne. Elle avait quand même le droit de donner son consentement, mais il y avait quand même beaucoup de pression de la part des parents d'accepter une personne d'origine indienne.
C'était comment de grandir à Genève dans une famille indienne ?
C'était assez strict, c'est une culture qui est magnifique, je trouve. L'Inde, il y a beaucoup de belles choses, mais il y a aussi un rapport à la femme qui peut être très différent de ce qu'on retrouve ici. Les femmes ont généralement les valeurs de la pudeur, de la discrétion, elles ne se mettent pas forcément en avant. Une femme qui donne son avis, qui s'impose, qui se présente d'une manière confiante, c'est souvent mal vu. Et j'avais un peu ce problème avec ma famille en grandissant parce que naturellement, j'ai une personnalité très forte et je sentais que ce n'était pas toujours en relation avec la personne que mes parents voulaient que je sois. Il y a eu pas mal de frictions à ce niveau-là. Par exemple, il y avait des limites très strictes pour rentrer à la maison ou par exemple, j'ai envie d'aller dormir chez des amis et puis mes parents ne connaissent pas les amis, ne connaissent pas les parents, donc ils disent non, c'est hors de question. Quand j'étais adolescente, interdiction de parler aux garçons, il ne faut surtout pas nous amener quelqu'un à la maison, surtout s'il n'est pas indien, ce n'est pas possible. Une fois, je me souviens, c'était l'époque MSN où je parlais avec un garçon et puis ma mère, elle m'a appelée vite dans la cuisine et c'est mon grand frère qui a vu sur l'écran que je parlais à un garçon et c'était totalement innocent.
Juste pour préciser pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce que c'est MSN, c'était un service de messagerie instantanée avec lequel on pouvait se mettre en relation avec des gens à travers le monde sur des thématiques de notre choix, en gros.
Exactement, voilà. Donc j'étais en train de parler par le biais de l'ordinateur avec un garçon qui me plaisait, mais c'était la première fois que je discutais vraiment. Je construisais une relation de confiance avec un garçon. Et évidemment, mon frère a vu ça et c'était le drame. C'est comme si j'avais annoncé que j'étais enceinte. En fait, c'était vraiment très exagéré comme réaction. Et pour ma mère, en fait, au lieu d'expliquer pourquoi pour elle ça n'allait pas et c'était une ligne à ne pas franchir, j'avais des punitions, restrictions d'ordinateur. En fait, à chaque fois que j'essayais de chercher un peu plus de liberté, la réponse était plus de contrôle.
Vous avez combien d'années d'écart avec votre frère ?
4 ans. Mon frère, de nature, il est très introverti. C'est quelqu'un qui est très casanier, il n'aime pas forcément avoir un grand cercle d'amis. Et c'était tout l'inverse de ce que moi je cherchais. Et souvent, j'avais des conversations avec lui où je disais, moi, j'ai envie d'être avec mes amis. Puis lui, il ne comprenait pas. Il me disait, mais pourquoi ? Bon, on a tout ce qu'il nous faut à la maison, avec les jeux vidéo, la télé, et puis voilà.
Sur la question du rapport au corps et de la pudeur, quelles étaient les règles ? Est-ce qu'il y en avait des spécifiques ?
Il fallait vraiment se couvrir. Il ne fallait pas montrer ses formes, surtout quand j'ai commencé à atteindre la puberté. C'était vraiment quelque chose qu'on me disait souvent, qu'il ne fallait pas mettre des habits serrés. Il ne fallait pas que les gens voient que je commence à développer une poitrine, par exemple. Et c'était pas facile pour moi de comprendre, en fait, cet écart, surtout que c'est pas ce que je voyais dans la rue. Je voyais des personnes dans des tenues que je trouvais très belles, et c'était un peu compliqué pour moi d'adhérer à ça. Et j'ai vraiment un souvenir très spécifique d'un t-shirt que j'aimais beaucoup, d'ailleurs. C'était un petit peu décolleté, mais c'était pas le grand décolleté. Et je me souviens que ma mère m'a amenée dans ma chambre, elle m'a expliqué que maintenant mon corps a changé et que je devrais cacher ma poitrine, et je devrais avoir des t-shirts qui arrivent au cou, et qu'il faut que je réfléchisse un peu à comment je me présente maintenant. Donc j'ai commencé de plus en plus à réprimer mon côté féminin. Quand j'avais 11-12 ans, j'avais commencé à porter des habits très larges, un peu skater, et j'arrivais pas à me connecter avec les filles sur les sujets de conversation. Ça parlait des premiers amours, ça parlait du maquillage, tout ce qui n'était pas accessible pour moi. Et c'est pour ça que la plupart de mes amitiés à cette époque-là, c'était surtout des garçons, parce que je me sentais plus à l'aise avec leur sujet de conversation.
Mais du coup, ça crée un autre problème, parce que vous n'aviez pas le droit de les amener à la maison ou d'en parler.
Exactement, et je me souviens où je disais toujours « oui, j'ai transformé leur prénom en fille ». Donc si c'était Julien, je disais « je sors avec Julia, mon amie ». C'était vraiment... Il y avait beaucoup de mensonges à gérer un petit peu ça, à ce niveau-là, parce que j'avais 2 versions de moi-même. J'avais la version à la maison, où j'étais très réservée, très calme, très respectueuse, entre guillemets. Et puis, il y avait la version de moi dehors, avec mes amis, où je me lâchais, je m'exprimais, je rigolais vraiment à voix très forte. Et puis, je challengeais aussi beaucoup les personnes autour de moi. Je cherchais un petit peu à pousser les limites.
C'est quoi le truc le plus fou que vous ayez fait ?
Alors ça, c'est un petit clin d'œil à une de mes meilleures amies qui fait de la grimpe. Une fois, on a essayé d'élaborer un plan pour voir comment je pourrais sortir de la maison par la fenêtre avec une corde et de l'équipement de grimpe. Elle m'a vraiment soutenue dans ce projet, mais finalement, je passais par la porte. C'était plus sûr. J'avais tellement peur de me faire mal et d'expliquer pourquoi je me suis fait mal que je passais par la porte, puis on m'attendait en bas, puis on sortait.
Vous faisiez quel genre d'activité ? Qu'est-ce qui vous rendait heureuse ?
Du coup, c'était le sport qui m'aidait beaucoup. Je faisais du tennis, de la natation. Puis après, au bout d'un moment, c'était surtout, j'étais devenue un peu casanière. Donc, moi, ce que j'avais découvert que je pouvais faire à la maison, c'était le design graphique. J'étais un peu autodidacte sur Photoshop et je créais un peu des images, des univers. Je jouais un petit peu avec tout ce que je pouvais faire de manière digitale.
Vous aviez une chambre à vous ?
Oui, alors c'est très drôle parce que je me souviens où je prenais vraiment ma brosse à cheveux et je jouais la starlette, je me mettais des tenues et puis je faisais semblant d'être une showgirl dans une comédie musicale et je vivais un petit peu ma féminité à cette manière-là. Des fois, je me projetais, j'imaginais que j'étais sur une scène, qu'il y avait les lumières, les paillettes, mais c'est des choses qui restaient juste l'imagination.
Vous aviez quel rapport avec les garçons ?
J'ai mis très longtemps à accepter que je pouvais plaire à un garçon parce que j'étais persuadée que je n'étais pas assez féminine, que je ne rentrais pas dans le cadre de ce qu'un garçon cherchait. En tout cas, jusqu'à mes 16 ans, j'avais beaucoup de difficultés à me connecter d'une manière romantique avec un garçon. Puis aussi, il y a le côté où c'était compliqué de trouver du temps pour le faire parce que mes parents contrôlaient tout ce que je faisais.
Ça vous a travaillé, cette idée que pour eux, seul un Indien aurait été un candidat souhaitable ?
Oui, et ça a été un sujet de conversation même jusqu'à aujourd'hui encore. Il y a une année, j'ai enfin épousé l'homme de mon choix, qui n'est pas Indien. Mais c'était une période très, très compliquée vis-à-vis de mes parents pour qu'ils acceptent. Et j'ai dû vraiment amener ce sujet petit à petit. C'était assez lourd émotionnellement. Puis on va dire qu'aujourd'hui, ils tolèrent.
Alors, si on en vient à parler de la danse, de l'effeuillage, peut-être la première question, c'est juste si la danse, c'était quelque chose qui vous attirait et le fait d'être en représentation, est-ce que vous avez pu finalement, petit à petit, faire de la place pour ça?
C'est très drôle parce que aujourd'hui, quand on parle de mon enfance et de ces souvenirs de moi en showgirl devant le miroir, pour moi, ce n'était pas évident que je m'inscrive à des cours de danse ou de burlesque. C'est vraiment venu petit à petit, presque par erreur, on va dire, parce que j'avais une amie qui voulait absolument faire un cours de pole dance.
Là, vous aviez quel âge?
Je devais avoir 22, 23 par là. Et je suis allée avec elle, alors que j'étais très réticente. Je lui disais, ah non, mais oh, danser autour d'une barre, voilà, c'est quand même... J'avais vraiment des a priori pour ce sport. Finalement, après le cours d'essai, j'ai adoré parce qu'au début, les premiers cours, c'est très sportif en fait. C'est apprendre à se soulever, apprendre à jouer avec la gravité pour faire des figures. Donc, il y avait vraiment ce côté très sportif. Mais je voyais en fait un début d'insertion de féminité dans le sport. Et surtout que c'était la première fois où je me permettais de me mettre en mini-short et en brassière. Parce qu'il faut s'agripper à la barre et il faut que la peau, elle croche. Donc, on est obligé d'avoir des endroits pour pouvoir crocher à la pole. Donc, je trouvais ça très intéressant comme milieu où je pouvais me rassurer parce que je faisais quand même du sport. Mais je me permettais d'ouvrir un petit peu cette porte à la féminité, à la sensualité.
Personne ne savait que vous étiez à ce cours, à part votre amie?
Non, au début, je ne l'avais dit à personne. Et petit à petit, j'ai commencé à dire un petit peu à des amis proches, mais... Évidemment, ma famille, jamais. Pour eux, je faisais des cours de yoga ou pilates ou peu importe. Et après, quand j'ai quitté Genève et je suis arrivée à Lausanne, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une école de pole dance. Et un jour, une de mes enseignantes de cette école-là avait posté sur Instagram qu'elle donnait des cours de danse cabaret avec les éventails de plumes. Donc, c'est vraiment ces grands éventails qui prennent beaucoup de place, on dirait des pans, et puis on peut danser avec. Et c'était tellement joli quand j'ai vu la vidéo. J'ai vu la douceur, l'élégance, la sensualité. Et je me suis dit, waouh, j'ai envie d'essayer. Il faut imaginer ce qu'on peut voir au Moulin Rouge, par exemple. Ce sont des justaucorps avec plein de paillettes, des plumes parfois, des strass. Souvent, ça peut être de couleurs aussi chères, avec juste des strass pour donner cette illusion de
nudité.
Voilà, on porte souvent des talons et puis des bas résis, juste pour sublimer un peu les jambes. Et c'est quand même surtout de la lingerie aussi qui se porte avec ces plumes qu'on dévoile et puis on cache le corps. Et bah voilà, j'ai commencé mon parcours en cabaret et c'était le premier spectacle de fin d'année où j'étais sur scène avec mes plumes et je trouvais ça génial. Et j'ai vu qu'il y avait un autre groupe où il y avait des filles qui faisaient du burlesque. Et le burlesque, c'est surtout de l'effeuillage, c'est l'art de se déshabiller sur scène en rythme d'une musique, en racontant une histoire. Il y a souvent un jeu de théâtre aussi, parce qu'il y a un personnage qui est incarné et puis il y a toujours un univers qu'on représente en fait dans chaque numéro. Donc il y a des burlesques très classiques, qui sont vraiment les origines du burlesque, avec un style sur des musiques très jazzy. Mais après, il y a aussi du néo-burlesque, où on peut aller dans des univers très variés, avec des musiques modernes aussi. Et là, de nouveau, comme j'avais au début avec la pole des a priori, je me suis dit, ah non, mais ça, moi, jamais, jamais je me déshabillerai comme ça. Enfin, c'est joli sur elle, mais moi, je pourrais pas faire ça, c'est pas possible. C'est trop loin dans la féminité et dans la sensualité. Donc, la première année est passée, la deuxième année est passée, et c'était à ma troisième année de cours où je me suis dit, bon, cette fois, j'ai envie d'essayer un cours de burlesque. Parce que je regardais ces femmes avec admiration. Et il y avait un côté de moi qui avait envie de voir ce que ça donnait de se mettre à leur place et d'essayer d'être dans cette représentation ultime de la féminité.
Quelle est la différence entre l'effeuillage burlesque et le striptease?
Alors, il faut savoir que l'effeuillage burlesque, ça naît du striptease aussi. Le striptease, c'est quand même un art qui est très, très, très ancien. Et je pense que la grande différence, c'est que les personnes qui font du striptease le font pour recevoir de l'argent au moment même de la performance, alors que dans le burlesque, c'est pas forcément l'argent qui est envoyé sur la scène pendant que là il y a la danse, mais plus il y a un producteur qui va appeler quelqu'un qui a un numéro qui est construit, qui va dire j'aimerais bien que vous présentiez votre numéro. Après, sans le striptease, il n'y a pas de burlesque, ça c'est sûr.
Vous aviez une forme d'appréhension à passer ce cap, à l'effeuillage particulièrement ?
Ah oui, bien sûr. Je me rappelle dans les premiers cours, j'avais toujours un leggings, j'avais toujours, je faisais semblant d'effeuiller au tout début parce que je n'étais pas prête à le faire réellement. Ou par exemple, si on effeuillait le soutien-gorge, j'en avais un autre en dessous. Comme ça, c'était juste le geste parce que je n'étais pas prête, même dans le cadre de l'école, de me dévoiler complètement. Mais avec le temps, finalement, je me suis questionnée sur pourquoi est-ce que je ne voulais pas le faire. Et j'ai compris que c'était juste lié à mes propres peurs, ma propre acceptation de mon corps aussi, de montrer ce corps avec tous ses défauts, mais aussi avec toutes ses qualités. Et c'est ça que j'ai appris à apprécier avec le burlesque, c'est vraiment de s'accepter tel qu'on est.
Vous avez mentionné la création d'un univers, d'un personnage. Comment est-ce que vous avez créé le vôtre ?
Alors, la découverte du personnage, c'est quelque chose qu'on fait durant les cours. On apprend à comprendre qui est-ce qu'on aimerait incarner, qui vient naturellement, parce que dans le burlesque, on peut avoir plein de types de personnages, allant de la femme fatale à la Lolita très ingénue. Mais pour moi, ça a toujours été très, très difficile de jouer les ingénues, parce que j'avais besoin d'exprimer ce côté très dominatrice, en fait. Donc, mon personnage, c'est une femme fatale qui prend toutes les décisions, qui n'a besoin de personne et qui est très, très indépendante. Et évidemment, c'est tout l'inverse de qui j'ai été en tant qu'enfant, ou peut-être que ça a été la personne que je voulais être. Et j'adore incarner ce personnage parce que c'est vraiment un moment de puissance pour moi où je réclame, en fait, le pouvoir et je décide que c'est moi qui décide.
C'est quoi votre costume ?
Alors, ça peut vraiment varier. J'ai mon personnage de base, c'est ma zone de confort, mais moi, j'ai cherché quand même ces dernières années, quand j'ai exploré à créer des numéros solo, à créer des nouveaux univers à chaque fois. Donc, le tout premier numéro solo que j'ai fait, c'était vraiment un numéro très sentimental, où j'avais une corde que je m'effeuillais. Je m'effeuillais de cette corde pour enlever, en fait, cette emprise que j'avais de mon passé, de ma culture, de mes parents, de la société aussi. Et pour moi, c'était un numéro très important pour démarrer mon parcours solo dans le milieu du burlesque. Et une fois que j'ai enlevé ça, j'ai enlevé les cordes, le premier numéro de vraiment mon personnage, c'était cet agent secret, vraiment avec le grand trench, les bottines à talons, et qui vient et qui déchire tout.
Est-ce que vous avez le souvenir de vous être aperçu dans le miroir et de vous être dit « Oh mon Dieu, c'est maintenant ».
Oui, en coulisses, juste avant de monter sur scène, c'est sûr qu'il y a un trac immense et puis surtout qu'on n'a pas envie de se tromper. Quand on travaille avec des cache-tétons, on n'a vraiment pas envie qu'ils s'enlèvent en plein milieu d'un numéro. Donc je suis vraiment là en train d'essayer de voir si tout est bien caché là où j'ai envie que ce soit caché et que les choses qui vont être dévoilées vont être bien dévoilées. Parce que finalement, on pourrait imaginer que c'est juste des personnes qui se déshabillent sur scène, mais il y a vraiment tout un art derrière à synchroniser les mouvements avec la musique d'une manière fluide pour que le vêtement s'enlève au bon moment et que ce qui est dévoilé en dessous soit dévoilé de la bonne manière. Donc il y a toute une synchronicité à faire là-dedans. Et ouais, souvent avant de monter sur scène, je pense plus à ça et moins au fait que waouh, je vais me mettre à poil. C'est pas vraiment. J'ai plus envie que le spectacle se passe comme j'ai prévu et de pouvoir faire la représentation telle que j'ai prévu de la faire. Parce que ça peut arriver qu'on loupe des comptes, on a mal enlevé quelque chose et on trébuche dedans. Une fois, je me souviens, j'avais un manteau que j'avais enlevé et j'ai trébuché dessus avec mes talons. Et puis du coup, mais voilà, après, on fait tout en glamour. Hein. On remonte la main, on sourit et puis ça fait partie du show.
Et détail technique, mais donc les cache-tétons, c'est autocollant ?
Non. Non.
Comment ça tient ?
Alors si c'est autocollant, ça ne tiendrait pas. Avec la transpiration, avec les lumières et
ouais,
tout.
Oui, je me disais aussi.
Non, en fait, il faut mettre de la colle à postiche. Ça tient très, très bien, si c'est bien mis. Mais du coup, il faut bien les enlever après et puis faire des petits traitements à l'huile d'olive pour enlever toute la colle.
Ça fait pas mal de les enlever ?
Non, ça va. En fait, c'est vrai que tout ce qui est en coulisses, c'est beaucoup moins glamour que ce qu'on voit sur scène, ça c'est sûr.
Est-ce qu'il y a eu des moments où vous entendiez, ça va paraître un peu fou, mais la voix de vos parents ?
Ouais, alors, pour moi, c'est toujours quand je descends de scène, quand j'ai fini un numéro, et puis si je finis en cache-téton, et je suis là en train de chercher mon peignoir, et j'ai toujours cette petite voix qui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Mais après, je dis, bah, je vis ma vie, c'est ça que je fais, ça me plaît, je suis heureuse, donc je le fais. Mais c'est vrai que cette voix, elle reste toujours des fois dans ma tête. Mais je trouve qu'en général, ça m'a permis aussi de me libérer un peu plus et d'assumer cette sensualité parce que je me disais que je joue un rôle, c'est pas vraiment moi. Alors que concrètement, bien sûr que c'était moi. Et si je jouais ce rôle, c'est parce que j'adorais jouer ce rôle. Et donc, grâce à ce parcours que j'ai effectué dans le milieu du burlesque, je suis beaucoup plus à l'aise avec mon propre corps et même par rapport à la pudeur. Par exemple, ça m'arrive d'aller me baigner dans le lac, il n'y a pas forcément des vestiaires. Et je me dis, bon, allez hop, je vais vite enlever mon maillot, mettre mon haut. C'est en deux gestes, mais c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait avant. Je ne me serais jamais mis sans nu dans un lieu public, même pour une seconde, où personne regarde contre un mur. Mais même pour moi, c'était trop. Et maintenant, j'accepte et je me dis que ça va très bien et il n'y a aucun problème.
C'est intéressant parce qu'il y a une vraie dimension thérapeutique là-dedans.
Oui, oui. Le burlesque, c'est vraiment des séances de thérapie. Il y a aussi une très grande part de sororité aussi, parce que j'étais dans un cadre avec des femmes où on était dans la bienveillance pure. Il n'y avait pas de compétition. Alors qu'il y a d'autres milieux où on peut très facilement se retrouver dans une compétition quand on est dans le milieu sportif, se sentir presque se comparer aux autres. Et j'ai remarqué qu'avec le burlesque, on met tellement en avant le fait qu'on soit toutes uniques. Et ça, on le voit absolument dans tous les spectacles burlesques, qu'il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent. C'est ça que je trouve très, très fort et très inspirant et qui m'a aussi fait accepter le côté féminin qui était un peu réprimé jusqu'à là.
Comment est-ce que vous vivez le fait qu'il y a un public qui voit votre visage? Est-ce que vous aviez peur que ça se sache au travail, par exemple?
Oui, alors, étant dans le monde scientifique, qui est majoritairement masculin, j'ai remarqué que souvent, je devais même réprimer ma féminité dans ce milieu scientifique parce que j'étais plus prise au sérieux si j'arrivais avec un pantalon, une chemise, queue de cheval et pas de maquillage que si j'arrivais avec des talons, une robe et du maquillage. Tout de suite, le comportement des clients scientifiques changeait. Et donc, par rapport aux clients, je ne voulais surtout pas que ça sache. Donc, ce n'est pas quelque chose que je mets dans mon CV aussi. Et même avec mes collègues, je n'en parlais pas, en tout cas, tant qu'on ne devenait pas proches et amis. Et c'est là où j'ai créé un autre compte Instagram, parce qu'il y avait beaucoup de photos qui étaient publiées par l'école après les spectacles ou pendant. Et j'aimais bien aussi avoir ces souvenirs et d'avoir un feed qui était nourri en fait, de ces images, d'aussi voir ma progression. Mais pour moi, c'était important que les personnes dans ma famille ou dans mon entourage qui ne connaissaient pas ce milieu ne voient pas ces images. Et en même temps, que les personnes que je connaissais dans le cadre de l'école ne rentrent pas forcément dans ma vie quotidienne. Au cas où il y aurait des liens, des personnes qui se connaissent entre eux, des choses comme ça, je ne voulais pas que le lien se crée. Donc, je voulais vraiment séparer ces deux personnes. Et je pense que ça revient aussi sur ce que je faisais quand j'étais enfant, où je séparais la moi à la maison et la moi dehors.
Vous n'avez jamais eu peur que, par hasard, il y ait des clients, des collègues au spectacle?
Donc j'y ai pensé, mais je me suis dit que finalement, si quelqu'un va dans un spectacle amateur de burlesque, parce que ce sont des spectacles amateurs, c'est qu'ils connaissent quelqu'un qui est dans le milieu et qui soutienne l'école et le spectacle de l'école.
Et dans les dates ou dans les premiers rendez-vous que vous aviez avec les hommes que vous rencontriez, c'est quelque chose que vous gardiez plutôt pour vous?
Alors, je n'ai pas parlé à beaucoup d'entre eux, parce que c'était surtout par rapport à la pole. Déjà, toutes les personnes qui ont fait de la pole connaissent cette phrase. Quand on dit « Ah, j'ai fait de la pole dance », ils disent « Ah, tu peux danser sur ma pole ». Ouais, ça sexualise tout de suite la conversation. Et quand je faisais du cabaret, les gens, ils imaginaient tout de suite, oui, ils disaient « Ah, danseuse Moulin Rouge, ah, d'accord, ah, c'est de la striptease en fait ». Et rien contre les striptease, parce que c'est tout à fait une forme d'art à part, mais je ne voulais pas forcément qu'il y ait cette connotation dès la première rencontre sans apprendre à connaître qui je suis avant de connaître ce personnage de scène en fait. Mais c'était drôle parce que j'avais souvent des conversations où je justifiais presque ce choix en disant « Mais c'est très sportif ». Pour dire que non, ce n'est pas juste une recherche de séduction pure, mais je cherche à faire du sport. Et je m'en veux d'avoir présenté ça comme ça. Avec le recul, j'aurais tellement voulu juste leur dire « Eh oui, je suis une femme, j'adore danser autour d'une barre d'une manière sensuelle et c'est comme ça ». Mais non, je sentais que j'avais besoin, à l'époque en tout cas, de justifier ce choix.
Et ça a été compris ?
même s'ils disent qu'ils comprennent, ils trouvent quand même, ils disent « Ah ouais, c'est sexy quand même » ou « Tu m'envoies des vidéos, j'ai envie de voir », des choses comme ça. Il y avait toujours en fait un côté très sexualisé autour de la chose qui me gênait un peu parce que je ne faisais pas ça pour plaire à ces hommes. Je faisais ce sport parce que ça m'apportait énormément de bien-être pour moi.
C'est quoi l'émotion principale ?
Pour utiliser le mot anglais, c'est du « empowerment ». Mais vraiment, il y a ce moment où je me sens, c'est euphorique. Il y a un mélange en fait de bonheur, de plaisir de partager sa création, de ressentir l'énergie aussi du public qui me donne encore plus envie de performer. Et oui, il y a ce moment, cette finalité où je me retrouve parfois en cache-téton, hyper contente d'être moi-même. Je trouve que le moment passe toujours trop vite. On est tellement concentré à suivre la musique, à être sûr que tout se passe bien, à vivre le moment, qu'en fait, on n'a même pas le temps de réaliser qu'on est là, sur scène, à poil, et qu'on nous applaudit. C'est plus après coup qu'il y a un peu la redescente et les émotions qui se remettent en place.
Est-ce que vous êtes sensible aux arguments qui viendraient questionner le fait que pour être soi-même en tant que femme, il faut être en lingerie devant un public ?
Oui, je comprends tout à fait pourquoi quelqu'un pourrait faire ce lien. Mais pour moi, ce n'est pas forcément nécessaire d'être en lingerie devant un public pour être une femme. C'est de pouvoir s'accepter pleinement. Après, le côté d'être en lingerie devant le public, c'est hyper puissant parce que c'est un moment où la femme prend toute la place. Ou même l'homme qui choisit de faire du burlesque, parce qu'il y a aussi des hommes qui font du burlesque, mais que la personne vienne sur scène. C'est un moment à elle où elle décide « voici mon univers, voici ce que j'ai préparé ». Et vous, vous allez regarder, que ça vous plaise ou pas, je suis là et je m'apprécie et je partage ça avec vous. Et en fait, le jeu, c'est vraiment ce jeu du teasing où je choisis de ce que je veux vous montrer. Je choisis où je m'arrête. Donc vraiment, il y a ce moment où je vais montrer mon gant, est-ce que je l'enlève ou pas, c'est moi qui décide. Donc si je sens que le public n'est pas réceptif, il n'y a aucune raison pourquoi je devrais l'enlever. Et c'est vrai que sur scène, c'est du live. Donc un public muet, ce n'est pas très encourageant pour la personne sur scène parce qu'après, forcément, si on n'entend pas les encouragements des gens, on entend notre propre voix intérieure qui nous dit « Ah, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu te déshabilles ? Personne ne veut voir ça. Regarde, il n'apprécie pas. » Donc plus ça crie, plus ça siffle, mieux c'est. Et quand il y a ces applaudissements, surtout dans des moments clés, genre au moment où on enlève le soutien-gorge, au moment où on enlève la jupe, des choses comme ça, ça fait vraiment plaisir parce qu'on sent que notre corps est en train d'être célébré et d'une manière hyper bienveillante. Moi, j'ai déjà revu des fois des vidéos de mes performances et ça ne donne pas le même ressenti. Même quand on regarde des stars internationales incroyables, en regardant la vidéo, on ne ressent pas ce qui se passe vraiment dans la salle. Après, bien sûr, ça dépend du type de numéro. Il y a certains numéros qui reçoivent plus de réactions du public. Il y a des gens qui partent aussi dans l'humour. Donc ça marche toujours très bien. Et il n'y a rien qui empêche les personnes de mélanger l'humour à la sensualité aussi. Des fois, il y a certains numéros peut-être qui sont plus artistiques. Par exemple, mon numéro avec la corde qui est plus dans un message un peu plus profond. Il n'y avait pas forcément des personnes qui applaudissaient, qui hurlaient, qui criaient, mais je sentais que le message était passé. Et puis pour moi, c'était assez de pouvoir incarner ce personnage, de raconter cette histoire et de partager ça avec le public. Souvent, ce sont les maîtres de cérémonie qui encouragent les personnes à réagir d'une certaine manière et qui expliquent aussi l'importance de cette énergie du public.
Qu'est-ce qui serait inadéquat ? Est-ce que c'est déjà arrivé ?
Alors, moi, je suis mon personnage tant que je suis sur scène pendant ces 5 minutes de la musique. Une fois que je suis plus sur scène, je suis plus ce personnage. Et donc, il ne faut pas penser que juste parce que j'ai enlevé mes habits sur scène pour vous, qu'après coup, mon corps vous appartient. Ce n'est justement pas ça, parce que j'ai décidé de quelle distance je voulais laisser entre moi et le public. Et même si le public m'encourage tant que je suis sur scène, je n'ai pas forcément envie qu'on pense que ça veut dire que quand je suis hors de la scène, que j'autorise qu'on me demande de me déshabiller.
Moi, c'est arrivé ?
Oui, une fois, j'avais eu une remarque, quelqu'un m'a demandé si je pouvais faire un show privé. J'ai dit là, bon, super. Mais non, en fait, je sais que ça peut arriver plus dans des scènes professionnelles où les personnes ne se rendent pas forcément compte qu'il y a une différence entre la personne qu'ils ont vue sur scène et la personne qui descend de la scène et qui se permettent de draguer d'une manière un peu lourde les artistes ou même qui ont reçu un bout du vêtement qui est jeté dans le public et qui refuse de le rendre. Ça peut arriver aussi et ça devient tout de suite très lourd parce que ce n'est pas le but. Il faut savoir apprécier l'art pour ce que c'est.
Donc tout ça, c'est quand même une part importante de votre vie. Qui sait et qui ne sait pas? Et comment est-ce que vous gardez quelque part cette paroi hermétique?
C'est compliqué. C'est toujours une question que je me pose quand je me rapproche des personnes. Je me dis jusqu'où est-ce que j'ai envie de dévoiler qui je suis réellement. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai navigué toute ma vie aussi, où j'ai décidé quelle facette est-ce que je suis prête à exprimer aux gens. En tout cas, c'est sûr que dans mon couple, mon mari, il sait tout. Il vient à chaque spectacle, il m'encourage. Et c'était très drôle d'ailleurs, parce qu'au début, je lui demandais presque la permission. Je disais, t'es sûr que c'est OK que je fasse ça? Et évidemment, il a dit que oui. Il a dit, je trouve c'est génial de te voir sur scène, de te voir t'épanouir. C'est incroyable de voir aussi toute l'énergie que tu mets avant, à la maison, toutes les répétitions que je fais. Il voit que ça m'apporte du bien d'être dans ce processus créatif. Donc, lui, il est très encourageant, mais il y avait quand même un moment au tout début, il m'a dit, oui, par contre, on est d'accord, tu ne te mettras jamais en cache-téton, enfin, tu laisseras ton soutien-gorge. Et moi, j'ai dit, bah, si c'est important pour toi, ouais, enfin, je n'étais pas forcément hyper ouverte à cette idée, mais je me suis dit, bon, s'il n'est pas à l'aise que je me mette seins nus devant un public, il faudrait ouvrir cette discussion. Mais après, finalement, quand j'avais un numéro où j'avais envie de finir en cache-téton, je lui ai dit, écoute, la raison pour laquelle je vais jusqu'au bout, c'est pour ça. Et après, il m'a dit, mais bien sûr, tu fais ce que tu veux. Donc, je pense qu'il avait vu assez de spectacles burlesques pour s'habituer à cette idée et comprendre qu'on peut séparer, en fait, le personnage de la scène au personnage du quotidien. Et même, il avait des amis, un ami en commun que je voulais inviter une fois. Et mon mari était un peu mal à l'aise la première fois. Il m'a dit, ouais, mais c'est un peu bizarre quand même. Enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi est-ce qu'il aurait envie de voir? Mais finalement, il est venu et il a adoré. C'était son premier spectacle burlesque. Et pareil, lui, il m'a dit qu'il n'a pas l'impression que c'est moi quand je suis sur scène. Il voit que c'est un personnage que j'incarne. Et donc, quand ce personnage se dévêtit, il n'est pas en train de se dire que c'est moi, la personne qu'il connaît, qui est en train de se mettre à nu.
Et vos parents, votre famille, alors bon, eux, j'imagine qu'il n'y a vraiment aucune information qui est infiltrée.
Non, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir. Je pense qu'ils ne vont jamais comprendre. Pour eux, ça sera un saut tellement immense. Elle est passée de la fille qui se met toujours en t-shirt à la fille qui se dévêtit sur scène. Ils n'ont pas connu toutes les étapes intermédiaires et cette ouverture d'esprit que j'ai commencé à avoir avec le temps.
Et votre frère non plus du tout, hein?
Alors non, absolument pas. Mon frère, je pense que ce serait même pire que mon père.
C'est quoi qui vous ferait le plus peur si vous essayiez d'avoir cette conversation un jour avec, admettons, votre mère?
En fait, ce ne serait pas forcément peur. C'est que je sais qu'il y aura du jugement. Et c'est surtout ce sentiment de les avoir déçus. Ils vont avoir l'impression qu'ils ont échoué dans mon éducation et qu'ils n'ont pas réussi à m'apprendre les bonnes valeurs, des choses comme ça. Mais en même temps, je ne pense pas que c'est parce qu'ils ont été stricts avec moi que je me suis aventurée dans ce milieu. C'est quelque chose que j'aurais fait de toute manière dans ma vie parce que j'ai toujours été attirée par le milieu du show business, enfin, les showgirls, les comédies musicales, l'expression de soi, la créativité. Même quand j'étais confinée, entre guillemets, à la maison, je suis allée dans un milieu créatif avec le design graphique. Donc, je pense que c'est un milieu qui m'aurait toujours parlé, même sans l'éducation de mes parents. Donc, même si je n'avais pas le droit d'être moi-même, le fait que j'avais vraiment une envie d'être plus extravertie et une envie d'aller explorer d'autres milieux, même si on me le réprimait, ça approfondissait en fait cette envie et ça me convainquait en fait que c'était vraiment la voie que je voulais prendre. Et je pense que oui, c'est facile de repenser à son enfance et de mettre la faute sur les parents pour dire oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Mais finalement, évidemment, si on pouvait revenir en arrière, j'aurais bien voulu que ce soit différent. Mais aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce à ça aussi.
Qu'est-ce que vous diriez à l'enfant que vous étiez à 11 ans à qui on expliquait qu'il ne fallait pas mettre ce t-shirt?
Je dirais, ne laisse pas les autres contrôler ta vie. Sois qui tu es et apprécie qui tu es pleinement.
Est-ce qu'un show de burlesque sur de la musique indienne, c'est quelque chose qui vous parle?
J'y ai pensé et j'ai une idée en tête où j'aimerais bien essayer de faire ça. Je n'ai pas encore réussi à consolider les deux univers dans ma tête, à voir quelle histoire est-ce que je veux raconter par rapport à ça. C'est ça que je me pose encore comme question. Et peut-être dans quelques années.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de la 6e saison de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et rendu possible par Shams Iaz. Il a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!